Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 78e épisode. Dans cet épisode, je vais parler de l'humiliation verbale avec ses risques de malentendus et de dérapage. Une précision, juste pour être bien clair, c'est un sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais dans cet épisode-ci, je vais vraiment me restreindre à un problème, qui est pour moi un problème majeur, qui est donc tous les soucis que peut poser l'utilisation de l'humiliation verbale. Dans cet épisode, je ne vais donc pas aborder vraiment en détail toutes les possibilités existantes, je ne vais parler que de façon superficielle des raisons, par exemple, pour lesquelles on peut vouloir pratiquer ce genre de choses. Là, ce qui m'intéresse, ce sont les problèmes, et c'est particulièrement important en amont, en fait, parce que si vous voulez faire ce genre de choses, c'est bon de connaître les éventuels problèmes, les soucis que ça peut poser. Ça évite de se lancer là-dedans, donc, sans avoir déjà un tout petit peu réfléchi à est-ce que c'est pertinent dans le contexte dans lequel vous trouvez. Première partie, pourquoi cet épisode ? Ça faisait assez longtemps que je pensais parler de ce genre de choses, et comme pour beaucoup d'épisodes ou d'articles sur mon site, il y a très souvent un déclencheur, un événement, quelque chose qui arrive, qui me fait penser « Ah oui, ce sujet-là, ce serait pas mal d'en parler maintenant », ou parce que, tout simplement, mes pensées sur le sujet ont suffisamment mûri, parce qu'il y a plein de sujets que j'ai en tête, mais je n'en parle vraiment qu'une fois que je vois à peu près ce que je vais vouloir dire. Et ici, le déclencheur, ça a été tout simplement le début de l'écriture d'une série d'histoires qui raconte les aventures de Natacha, une jeune femme de 19 ans qui se lance dans le milieu du travail du sexe TDS BDSM et qui va aller se faire engager dans une agence spécialisée dans le BDSM en tant qu'escorte soumise BDSM. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 1er octobre 2024 et je viens juste ce matin de publier la deuxième partie des aventures en question, qui sera suivie, je l'espère en tout cas, de nombreux autres épisodes, et selon la période à laquelle vous écoutez ce podcast, il y en aura peut-être déjà eu des nouveaux. J'en profite pour me faire de la pub. En fait, cette série, je l'ai créée dans le but d'écrire des histoires, mais des histoires qui sont basées essentiellement sur la vérité, des vraies anecdotes. Donc ce que je raconte est parfois un peu romancé, parfois beaucoup, mais généralement c'est vraiment très près de la réalité. Et un des objectifs est d'illustrer ce qui se passe dans ces types de milieux, les milieux du sexe payant, dans le contexte du BDSM évidemment. Si vous voulez lire les histoires donc qui racontent les aventures de Natacha, ça s'écrit N-A-T-A-S-H-A, vous allez tout simplement sur mon site univers-bdsm.info. Dans les zones, vous trouverez une rubrique qui s'appelle Histoire, et vous y trouverez aisément ses aventures, puisque son nom figure dans chacun des épisodes, évidemment. Donc, dans les aventures de Natacha, il y a évidemment des descriptions de BDSM et de rencontres avec des clients qui payent donc pour faire des séances de BDSM. Dans ces histoires, il va y avoir un certain nombre de thèmes qui sont abordés de façon plus ou moins récurrente, plus ou moins transverse, et une chose qui sera immanquable, ce sont tous les sujets qui touchent à l'humiliation, et notamment il y a l'humiliation verbale. Typiquement, là, vous allez avoir des descriptions de clients qui vont parler à Natacha en lui disant « Alors salope, t'aimes ça ?» en lui disant « Viens ici, petite pute », ce genre de choses. Vous excusez évidemment la vulgarité des termes, dans le contexte de cet épisode, ils ont tout leur sens, bien entendu. Donc vous voyez, je me suis posé des questions justement, parce que tout ça c'est vulgaire, et évidemment ça n'est pas sans avoir des petits soucis quand on utilise ce genre de termes. Ça va être le focus de cet épisode. Sinon, de façon générale, je vous surprends pas si je vous dis que ce genre de choses s'est utilisé de façon assez courante en fait. Hein. J'imagine, vous en avez presque certainement entendu parler, peut-être que vous utilisez des choses comme ça, je vais en parler un peu plus en détail dans la partie suivante, mais ce genre de choses, on le voit dans le porno bien entendu, hein. Dans les vidéos porno il y en a partout des choses comme ça, dans les bandes dessinées, les mangas pour adultes, bref, un peu tout ce qui est destiné aux adultes, pas uniquement dans un contexte BDSM hein, évidemment. Et bien entendu, tout ça, on le trouve souvent, très souvent, je pense d'ailleurs, dans les couples, tout simplement, hein. Et je me répète, vous m'excusez, ce n'est pas spécifique au BDSM. Donc ça, c'est quelque chose qui sera très répandu, même parmi des personnes qui ne font pas du tout de BDSM. Donc si je reprends le problème, tout ça, ça pose quel souci ? En fait, pour moi, ce genre de choses qui pourtant sont très répandues, elles cachent plus ou moins un certain nombre de problèmes potentiels, mais qui peuvent être assez graves en fait, j'en parlais tout à l'heure. Et je pense que autant ce genre de choses peuvent être très sympas, autant elles peuvent être un piège et parfois dériver en catastrophe, totalement de façon involontaire et imprévue, mais je vais en reparler. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'humiliation, c'est pas anodin. Et il y a un très fort risque, hein, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, il y a un fort risque de malentendu et de dérapage, en fait. C'est-à-dire, on peut vouloir dire les choses un peu en plaisantant ou dans un contexte sexuel, et parfois, ça passe mal, et on sort du contexte, et là, ça peut être catastrophique. Je vais développer tout à l'heure. Et en plus de ça, il y a un autre problème qui, là, va être plus spécial pour un certain nombre de personnes comme moi, c'est pour ça que je veux en parler, c'est que vous avez ce que vous faites typiquement dans votre couple, mais vous avez ensuite ce que vous dites et qui est dit face à d'autres personnes, il y a des témoins, ou bien vous écrivez des textes, vous enregistrez des vidéos, vous faites des podcasts, et là, il y a un gros problème de perception par les personnes extérieures. C'est-à-dire, en résumé, on risque de prendre ce que vous dites au premier degré et de vous attribuer un certain nombre d'idées, de pensées, de comportements qui sont très désagréables et qui peuvent vous porter préjudice. À tort, bien entendu, parce que là, on est bien d'accord, hein, je suis dans un cadre où ce qu'on dit n'est pas ce qu'on pense. Dans mon cas, vraiment, je trouve que ça, c'est un vrai problème, mais je vais développer dans un instant. Deuxième partie, une petite présentation des différents types classiques d'humiliation verbale et mon problème personnel avec les humiliations verbales, les mots crus. Avant de commencer, je veux préciser, l'épisode s'appelle bien humiliation verbale. La raison, c'est que je voulais distinguer de façon très claire, parce qu'il y a plusieurs types d'humiliation, et notamment, il en existe qui consistent à demander, à forcer, à faire des choses humiliantes. Des exemples, ça peut être de la nudité en public, entre guillemets, ou devant des personnes qu'on connaît pas trop, dans une soirée par exemple. Ça peut être grogner comme un cochon, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut aussi être porter des vêtements ou des accessoires humiliants. Bref, ce genre de choses qui ne sont pas verbales. Là, c'est des choses qui sont physiques, etc. Je voulais le préciser parce que dans cet épisode, je me concentre uniquement sur le côté verbal, c'est-à-dire les insultes, les mots crus, les choses humiliantes qu'on peut dire à quelqu'un. Alors, quels sont les exemples typiques de choses qui font partie des humiliations verbales ? Je vais pas vous donner tous les exemples, je vais vous donner quelques grandes catégories, parce qu'il y a beaucoup de choses possibles, bien sûr. Et en plus, histoire de compliquer les choses, ça dépend des personnes, ça dépend du pays, de la langue, etc., bien entendu, hein, du contexte dans lequel on est. Alors, il va de soi que tout ce que je vais dire là, vous m'excusez quand je suis ultra vulgaire, hein. Vu le contexte de l'épisode, ce serait un tout petit peu difficile de faire autrement. Donc, vous me comprenez quand je dis que tout ça, ce sont juste des exemples, hein. On est d'accord, et je ne vais évidemment pas m'excuser après chacun d'entre eux, donc je m'excuse d'avance quand c'est vulgaire, mais c'était nécessaire. Les premiers, les classiques, alors vraiment ceux que, à mon avis, on a en tête immédiatement, ce sont des choses du genre salope, pute et ce genre de choses. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure de cela. Pour moi, ce sont deux des principaux, ce sont ceux d'ailleurs que j'utilise dans mes histoires BDSM. Mais vous avez beaucoup d'autres, comme par exemple les injures de type raciste. Alors ça, j'en parlais déjà dans mon épisode de podcast numéro 52, qui s'intitule « Tabou du BDSM, les jeux de race » ou « race play » en anglais. Ensuite, vous avez des choses du genre les injures homophobes, ce genre de choses. Vous avez pas mal aussi d'insultes un peu variées, du genre gros porc, mocheté, ou encore des choses qu'on voit assez souvent, notamment dans les forums américains, des choses du genre minable, perdant, ce genre de choses. Une autre chose qui, là, est répandue dans le BDSM, je ne saurais pas dire si ça l'est en dehors, mais dans le BDSM, ça c'est connu, ça fait partie des choses qui sont rattachées au BDSM en général, c'est ce qui consiste à se moquer des organes génitaux. Des hommes, typiquement, hein, dans le BDSM, c'est pour se moquer de la taille du pénis, hein, en disant des choses du genre « t'as un pénis qui est ridiculement petit », ce genre de choses. Pour les femmes, ce sera plutôt des moqueries sur les seins, par exemple, ou peut-être sur l'aspect ou la taille du sexe, ce genre de choses. Enfin, un dernier auquel je pense, et il y en aurait d'autres, hein, ce sont des vidéos porno de femmes dominatrices qui, là, s'adressent directement au spectateur. Elles regardent la caméra, hein, et elles se moquent du spectateur, qui généralement est un homme, hein, bien sûr, en disant des choses, par exemple, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, une femme qui fait des vidéos BDSM, elle se moquait en disant, au spectateur donc, hein, regarde comme je suis belle, etc. Donc elle se montrait bien sous tous les angles, hein. Tu m'auras jamais, t'es qu'un minable, tu peux pas espérer avoir une fille superbe comme moi, etc. Ça aussi, c'est assez classique dans le BDSM, dans le porno BDSM en tout cas, on en trouve pas mal. Voilà, c'était quelques exemples pour vous donner des grandes catégories. Il y en aurait plein d'autres, mais ce que je voulais, c'était juste vous donner des exemples pour que vous compreniez exactement de quoi je parle, qu'on soit bien d'accord, hein. Maintenant, je voudrais parler de ce que moi j'utilise, à la fois quand je fais du BDSM avec des copines, et quand j'utilise ce genre de choses dans des histoires, dans des épisodes de podcast, etc. Bref, quand je m'adresse à un public extérieur. Donc là, y a vraiment une opposition entre ce que je fais chez moi, et qui restera donc entre les partenaires concernés, bien entendu, et ce que j'écris ou je dis, qui est destiné à un public extérieur. Donc là, évidemment, on est dans un contexte totalement différent. Personnellement, des choses comme ça, j'en utilise vraiment deux, en fait. Ce sont des ultra classiques, alors je vais pas vous surprendre. Donc à nouveau, vous excusez la vulgarité horrible, ceux que j'utilise vraiment, ce sont salope et pute, ce genre de choses. C'est-à-dire avec des variations éventuellement. Pour vous donner un exemple typique, mais qui va pas vous surprendre, c'est basique, ça va être, par exemple, j'ai une copine que j'ai attachée sur le lit, et je lui donne des petites baffes, légères, je le précise, j'ai jamais aimé les gifles, et depuis que je sais que c'est dangereux, je les utilise encore moins qu'avant, et je vais lui dire des choses donc humiliantes, du type « Alors, petite salope, t'aimes ça, être attachée, tu voudrais que tu sois offerte à tous les hommes qui passent dans la rue, des choses comme ça, vous voyez ?» Donc, super banal, mais ce sont des choses que certaines personnes aiment, et ça, je vais en reparler tout à l'heure. Ensuite, bien évidemment, ça va de soi, ce genre de choses, je les utilise aussi dans des histoires que je raconte, soit par écrit sur mon site, soit par oral quand c'est sur un podcast par exemple. Et là, bien entendu, ça va pas être moi qui parle en général, ça va être les personnages de l'histoire. Bien que parfois j'apparaisse dans certaines histoires, mais ça c'est un autre problème. Le souci que j'ai, c'est que, personnellement, j'aime pas la vulgarité. Donc, évidemment, vous commencez à comprendre le petit souci. Donc j'utilise bien ce genre de choses pour le côté humiliant, etc., et parce que ça plaît à certaines filles que je rencontre, et que dans le cadre de mes histoires, c'est quasiment indispensable, parce que ce genre de choses, franchement, c'est un peu indissociable des histoires BDSM. On peut pas vraiment éviter ce genre de choses. Donc j'en utilise, mais ça veut pas dire que ça me plaît entièrement. Pourquoi ? Alors, je viens d'expliquer, j'aime pas la vulgarité en général. Dans le cadre du BDSM, je suis prêt à faire des choses un peu différentes, parce que c'est le cadre du BDSM, et je vais en parler tout à l'heure. Mais ce qui me gêne particulièrement, ce sont que ces deux mots-là, je les aime pas parce qu'ils ont des sous-entendus qui sont, à mon sens, désagréables, pour ne pas dire malsains. Et ça me pose un gros problème. Je me répète, je parle à titre personnel, soyons bien clairs. Le premier terme, salope, c'est un terme que vous connaissez évidemment, qui est utilisé de façon négative, et avec des sous-entendus qui sont souvent très négatifs, parfois carrément malsains. Je ne vais pas entrer dans les détails de pourquoi on utilise ce genre de choses, ça sortirait du périmètre de cet épisode, mais c'est classique. Personnellement, je dois vous dire, je crois que je m'en sers à peu près jamais de ce mot-là, sauf dans un contexte BDSM. Et mon souci, c'est que, pour moi, faut bien que vous compreniez, surtout si vous me suivez pas vraiment depuis longtemps, donc vous savez pas déjà ce que je pense, ce que j'écris dans mes articles, personnellement, pour moi, ça n'a pas de sens, le concept de salope dans le sens négatif. Parce que, vous comprenez, les filles que je rencontre, en général, sont des filles qui ont une très forte sexualité, parce que, pour faire ce que je fais, évidemment, je cherche des personnes qui sont très ouvertes sexuellement, pas seulement dans le BDSM. Du coup, forcément, de façon disproportionnée, les filles que je vais rencontrer entrent dans la catégorie des filles à qui on va adresser ce genre de critiques et ce genre d'insultes. Je n'entre pas dans les détails que c'est odieux, etc., j'aurais beaucoup à dire, mais on va passer. Donc, ce serait totalement absurde, de ma part, de porter un véritable sens négatif et malsain à ce terme-là. Pour moi, si vous voulez, pour dire les choses clairement, c'est quelque chose de désirable, et c'est pas quelque chose de négatif. Ah, et puis, alors, je précise une chose super importante. Je suis pas hypocrite quand je dis ça, parce que j'ai déjà rencontré des hommes, notamment des jeunes hommes, qui disaient que, bon, de façon horriblement hypocrite, que telle ou telle fille, qui justement, ils allaient appeler salope, c'était ok de coucher avec elle, mais ils iraient pas au-delà. Par exemple, ils disaient, jamais je me marierai avec une fille comme elle. Vous voyez, l'hypocrisie, elle est horriblement élevée, Personnellement, je trouve ça absolument immonde de dire des choses comme ça, mais j'en ai déjà été témoin. Donc, je veux préciser que quand moi je dis que vraiment c'est pas un problème pour moi, je veux vraiment le dire, c'est-à-dire que ça ne me pose vraiment pas de problème, c'est pas une attitude hypocrite comme ces gars-là que je viens d'écrire. Vous m'excusez de préciser ce genre de choses, mais je crois que c'est quand même utile, parce que j'ai croisé un petit peu trop souvent des hypocrisies de ce genre-là. Donc soyons bien clairs, si je dis que moi c'est quelque chose que je trouve vraiment pas négatif, c'est vraiment quelque chose de sincère. Le deuxième terme, c'est encore pire. Le terme pute et tous ces genres de choses. Alors, je vais abréger parce que sinon, il faudrait que j'en parle pendant une heure. Mais il faut bien que vous compreniez une chose vraiment importante. Pour moi, ce mot-là n'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose que je vois comme étant humiliant, etc. En résumé, j'ai pas de problème avec, de façon générale, le travail du sexe, c'est-à-dire le porno, tout ce que vous voulez, et tout ce qui est la prostitution, l'escorting, etc. Que ce soit en dehors du BDSM ou dans le BDSM. Et personnellement, je trouve que ce terme, il est très gênant à utiliser. Je l'utilise vraiment uniquement dans ce contexte BDSM parce que c'est perçu comme étant humiliant et que ça peut être sympa pour la personne qui le reçoit. Mais si c'était moi, seul, je l'utiliserais jamais ce mot-là. Parce que je trouve que c'est un terme qui est horriblement nocif et malsain en fait à cause de l'image sous-jacente. Je veux dire, bien entendu, vous me comprenez, hein, quand on l'utilise en tant qu'insulte, bien entendu. Hein. Personnellement, je me répète, j'ai pas du tout de problème avec le travail du sexe. J'en connais les réalités, je l'ai étudié, j'ai écrit des histoires qui en parlent, j'ai écrit des articles qui en parlent, donc je connais le sujet, je sais exactement de quoi il retourne, et je n'ai pas tous les préjugés horribles, odieux, etc., qui font que, ensuite, le terme pute, hein, par exemple, est une insulte. Parce que fondamentalement, la raison, hein, c'est la totale incompréhension de qu'est-ce que c'est réellement que la prostitution, l'escorting, etc., toutes ces choses-là. Donc je vais abréger ici, parce que sinon là, je sens que je suis vraiment parti pour vous en parler pendant une heure, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour résumer, ces mots-là, je les utilise, oui, dans un contexte BDSM, mais en dehors, je les utilise pas, et pour être bien clair, hein, je l'ai déjà présenté, mais je veux être super clair, pour moi, ils n'ont pas de sens, c'est-à-dire, ce ne sont pas des insultes, voilà. Mais comme je sais qu'ils sont utilisés comme tels, j'ai parfois des scrupules à les utiliser, parce que je me dis, c'est un petit peu une gêne quand même. Et je reparlerai de ça dans la quatrième partie. Troisième partie, pourquoi est-ce que tout ça existe? Pourquoi est-ce que ça plaît? Alors malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse simple. Le premier point que je veux soulever, c'est que probablement que si vous, ce genre de choses, ça vous intéresse pas, ça doit être super difficile de comprendre l'intérêt que ça a. Le but évidemment hein, de l'humiliation verbale, c'est d'avoir une réponse sexuelle plus ou moins importante, de l'excitation d'une façon ou d'une autre. Personnellement, j'ai absolument aucune excitation quand on me lance des insultes, quand on m'humilie, etc. Donc évidemment, c'est un petit peu dur pour moi de vraiment comprendre, à part intellectuellement bien entendu, l'attrait, l'intérêt de la chose. Si c'est votre cas, pareil, hein, vous allez avoir vraiment du mal à comprendre. Donc, comme beaucoup de choses dans le BDSM, et le sexe en général, c'est pas évident du tout hein, de comprendre pourquoi est-ce que des gens aiment ça, quand nous, on se dit, moi ça me plaît pas, et à la limite, ça peut même être pire que ne pas plaire. Prenons un autre exemple qui n'a rien à voir, le SM, le sadomasochisme, il y a des gens qui aiment pas ça et qui comprennent pas qu'on puisse aimer ça. Et ça se comprend, hein, parce que c'est vraiment quelque chose, on aime ou on n'aime pas, mais c'est clair que si on n'aime pas, c'est super difficile de comprendre pourquoi il y a des gens qui aiment recevoir de la petite fessée à des coups de fouet qui font des marques qui durent un mois. C'est quasiment impossible de comprendre, à part intellectuellement, mais c'est quand même pas la même chose que de le ressentir, c'est ça que je veux dire. Pour ce qui est de l'explication, il n'y a pas vraiment hein, de réponse satisfaisante. Ce que j'ai vu passer, en général, c'était douteux, et je suis très gentil. J'ai vu passer un certain nombre de choses qui présumaient des tas de pensées, des tas d'idées, etc., et qui en tiraient des tas de conclusions, totalement bidons, hein, n'ayant pas peur des mots. J'ai vu passer des tentatives d'explication qui étaient, disons les choses, qui étaient stupides, il n'y a pas d'autre mot, c'était du n'importe quoi. Il y a aussi des tentatives plus intéressantes, probablement plus raisonnables et réalistes, mais je veux pas entrer dans les détails volontairement, parce que là, vraiment, il faudrait que je vous présente pas mal de points de vue, que j'aille reconsulter des articles, etc. Donc, je veux pas le faire, je veux pas en parler. Je veux juste dire, donc, en conclusion, à l'heure actuelle, on sait pas vraiment pourquoi il y a des gens qui aiment ça. Il y a des hypothèses, oui, mais franchement, on saurait pas dire de façon super claire, prouvée, quelle est la vraie raison, l'attrait, pourquoi c'est excitant. Exactement comme, je viens de le dire tout à l'heure, hein, plein d'autres activités qui tombent sous l'ombrelle du BDSM, et aussi d'autres activités qui sont pas BDSM d'ailleurs. Et comme on comprend pas pourquoi ça plaît, et comme ça plaît pas à tout le monde, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que vous vous trouvez très vite confronté, soit par exemple dans votre couple ou avec des personnes que vous rencontrez si vous faites des rencontres de type BDSM ou pas de type BDSM d'ailleurs, il y a évidemment, vous le voyez tout de suite, hein, le problème, un problème de communication et de compréhension. Si la personne en face n'est pas intéressée par ça et ne comprend pas, on peut pas vraiment en parler sans risquer un rejet, etc. Et ça, c'était dans l'optique de vous rencontrer une autre personne qui soit vous dit qu'elle veut faire ça alors que vous vous connaissez pas, ça vous intéresse pas, soit c'est l'inverse, vous lui dites que vous voudriez faire ça et elle a dit « oulala, non, non ». Mais c'est encore bien pire quand vous êtes, comme moi par exemple, face à un public à qui vous présentez des écrits par exemple, et dans lequel forcément, il y aura un gros pourcentage de personnes qui vont pas comprendre ce genre de choses, qui vont pas aimer, et aussi un pourcentage qui vont comprendre et qui vont aimer bien sûr. Et le fait qu'on n'arrive pas à savoir exactement pourquoi ça existe vraiment, pourquoi ça plaît, ça rend les choses encore plus difficiles parce qu'on ne peut même pas se réfugier dans une explication, on peut pas rationaliser les choses. Et tout ça, évidemment, ça nous mène à des problèmes que j'avais évoqués dès le départ, et ça, je vais en parler tout de suite. Quatrième partie, les problèmes que l'utilisation de l'humiliation verbale peut créer. Évidemment, j'ai pas besoin de souligner très longuement que si vous discutez avec quelqu'un qui soit veut faire ce genre de pratique et que vous, ça vous plaît pas, ou l'inverse, la situation est un petit peu difficile, il y a un gros problème, et vouloir utiliser ce genre de pratique, ça devient un peu délicat. Parce que si ça plaît pas à un des partenaires, ça peut très vite dériver et on peut avoir des dérapages. Je vous ai dit tout à l'heure que personnellement, j'aime pas vraiment utiliser ces termes-là, mais dans un contexte BDSM, je les utilise sans problème. Ce sera pas le cas pour tout le monde. Imaginez la situation où vous avez par exemple un ou une partenaire qui aime ça et qui demande à l'autre partenaire « Je voudrais que tu m'attaches sur le lit et que tu m'insultes avec des termes du genre de ceux que j'ai présentés dans la deuxième partie. » Si vous ou la personne en face aimait pas ça, ça peut être dur à accepter et ça peut poser des problèmes. Autant il y a des personnes comme moi qui arrivent à bien faire la part des choses, autant il y a pas mal de personnes qui arriveront pas aussi aisément à faire la part des choses parce que c'est trop difficile, parce que ces termes ont un sens négatif trop fort. Et donc c'est pas évident d'aller traiter par exemple sa copine de salope, pute, fais ci, fais ça, etc. Si je prends ce cas-là, qui serait proche de mon cas, hein, la copine en question, elle va trouver ça super excitant, jouissif, tout ce que vous voulez, mais vous, après, si ça vous plaît pas, ça peut vous créer des remords, des scrupules, vous voyez, une gêne qui peut être forte en fait. Et là, on tombe évidemment hein, dans des grands problèmes de relationnel, parce que le souci, et c'est toujours le même, hein, c'est pas spécifique à ça, c'est pas spécifique à l'humiliation verbale, mais c'est toujours la même question, est-ce que vous êtes capable, dans votre relation, de vraiment faire une séparation entre le moment où on est dans un contexte de type BDSM et sexe en général, et le moment où on est en dehors? Je sais que, dit comme ça, ça paraît pourtant évident, mais la pratique, hein, la réalité, montre que non, ça l'est pas. Ça n'est pas évident pour tout le monde. Et il y a des gens qui ont du mal à vraiment tout séparer, à cloisonner les choses. Ce qui se comprend, hein, je veux dire, il y aurait de quoi en discuter pendant des heures, mais je comprends pourquoi on peut avoir ce problème-là. Du coup, ça rend carrément, potentiellement, risqué d'utiliser un certain nombre de pratiques, et parmi ces pratiques, l'humiliation verbale est, à mon sens, une de celles qui sont les plus sournoises. Même si on considère des personnes qui sont ok avec l'utilisation de tout ça. Donc des deux côtés, hein, je veux dire. Même dans ces cas-là, il y a ce problème-là. Est-ce qu'on arrive à vraiment, vraiment distinguer le moment où on est dans le délire BDSM, sexuel, allez, vas-y salope, vas-y mon salaud, fais ci, cochonne, etc. Où on s'amuse. Et ensuite, le moment où on s'est arrêté et finalement... Alors qu'on pensait que c'était ok, etc., eh ben, il peut rester des traces, entre guillemets, vous voyez, de ces termes, et en résumé, on risque d'avoir une des personnes qui les a pris, et surtout la personne qui est insultée, entre guillemets, qui les a pris pour elle, c'est-à-dire au sérieux. Et ça, c'est un super gros problème. C'est un gros risque, en fait. Potentiel, bien entendu. Comme pour tout, faut relativiser les choses. Mais ça peut être un problème, ça peut dégénérer, et on peut avoir après des problèmes dans une relation, hein. Et le pire, c'est que vous avez pas mal de personnes qui communiquent pas beaucoup. Alors ça, c'est un problème en soi qui mériterait un épisode, donc je vais pas trop détailler, mais personnellement, j'en connais à titre personnel, et ça n'a rien de BDSM, de sexuel, etc. Des personnes qui ont des problèmes de communication, qui veulent pas parler de choses personnelles, de choses privées, j'en connais. J'en connais dans le domaine sexuel aussi, des personnes qui... ont du mal avec ça. C'est pas qu'elles soient timides, introverties, tout ça. Hein. Je parle pas de ces cas-là. Je parle de gens qui, quand c'est le sexe, non, veulent pas. Alors, il y aurait différentes raisons, je vais abréger. Le souci, c'est que si on n'en parle pas et que ça s'est un peu mal passé, eh bien, la communication, elle est nulle, et donc, de l'autre côté, la personne ne sait pas qu'il y a eu un problème, ce qui rend impossible, évidemment, de discuter, de remettre les choses à leur place, d'essayer de résoudre le problème. Et dans les pires cas, on peut avoir, typiquement, alors, j'ai déjà rencontré ça, mais c'était pas du tout dans un contexte BDSM, c'était un contexte professionnel, des personnes qui interprètent des choses hein, de façon négative alors qu'il n'y a pas de raison d'être, qui se montent la tête, mais qui ne veulent pas en parler, qui ruminent, qui à chaque fois en rajoutent, se montent la tête complètement, et un jour qu'explosent et qui s'en prennent à tout le monde avec des insultes, etc. Alors, ça m'est vraiment arrivé, ce genre de choses, malheureusement. Ça m'est arrivé plus qu'une fois, d'ailleurs. Et c'est extrêmement pénible pour les personnes en face, parce que vous, vous vous y attendiez pas à ce qu'il y ait soudain une explosion. Vous avez rien fait de mal. Je précise que là, professionnellement, il y avait absolument rien derrière. Hein. C'est des personnes qui ont des mauvaises attitudes et qui vont chercher le mal là où il y en a pas. Vous leur dites bonjour et ils interprètent ça comme étant « va te faire foutre ». Excusez la vulgarité. Mais vous, vous pouvez pas vous en rendre compte qu'il y a un problème que la personne rumine. Un jour, c'est l'explosion, et là, ça peut être catastrophique. Parce que il n'y a pas eu de retour de communication, il n'y a pas eu de temps pour l'autre personne, que ce soit vous ou le partenaire, de remettre les choses à leur place, bref, de désamorcer le conflit. Alors que si on avait parlé au début, tout de suite, on serait dit, d'accord, voilà, j'avais mal compris, ou bien finalement, ce mot-là, il me plaît pas trop, faut plus que tu l'utilises, vous voyez, il y aurait plein de possibilités. Personnellement, je pense que ce risque-là, c'est le pire. Les personnes comme ça, qui, pour des raisons diverses, ont des problèmes à verbaliser, refusent de verbaliser. Après, vous avez le problème classique du BDSM, des personnes qui trouvent l'idée super excitante, et qui, une fois au pied du mur, quand on fait les choses, soudain s'aperçoivent que, ben, finalement, c'était pas si excitant que ça, ou pire. Ce genre de choses, si vous rencontrez un certain nombre de personnes, c'est impossible de pas le rencontrer tôt ou tard. Hein. Il y a beaucoup de choses, probablement que je vous apprends rien, mais il y a beaucoup de choses qui sont super sexy, super intéressantes, super excitantes quand on les voit dans un porno, quand on les lit dans un roman, dans une bande dessinée adulte, tout ce que vous voulez. On veut les faire, et puis au moment de les faire, finalement, bah, les choses qu'on fait en réalité, c'est pas les choses qu'on avait dans la tête. Et parfois, c'est très, très différent, et ça pose de gros problèmes. Donc là, imaginez que vous étiez avec quelqu'un que vous étiez en train d'insulter, et la personne en face s'aperçoit au dernier moment que finalement, les insultes, c'est pas sexy, et elle les prend pour elle, comme on dit, et elle croit que, en réalité, c'est vraiment des insultes. J'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la catastrophe que ça peut être. Dans mon cas, j'ai expliqué, hein, moi j'utilise plutôt salope, pute, etc. Et j'ai expliqué les problèmes que j'ai avec ces mots-là, mais je pense que les plus gros problèmes, ce seront avec des choses du genre les insultes racistes, homophobes, ce genre de choses. Et probablement aussi tout ce qui concerne les moqueries sur le physique de la personne. Ce sont des choses qui sont apparemment assez répandues, mais quand on y pense, si vous dites quelque chose comme ça, même sur le ton de la plaisanterie, hein, à votre partenaire, homme, femme, peu importe, c'est quand même difficile, hein, de prendre le recul et de pas ensuite y repenser en se disant « bah en fait ça m'a fait mal mentalement qu'on me dit ça ». Et là, je me demande si c'est pas peut-être le pire des risques. C'est-à-dire, plaisanter sur le physique, souvent, c'est assez mal pris, hein. Je vous surprends pas en disant ça, et ça peut faire vraiment mal. Et là, dans ce contexte-là, même si on est entre personnes qui utilisent ce genre de pratique sans problème, si soudain on passe à ça sans être sûr que la personne en face, vraiment, est suffisamment sûre d'elle, la personne qui va recevoir l'insulte, est suffisamment sûre d'elle pour pouvoir recevoir ce type d'insulte, on risque une réaction négative qui peut être super forte, super toxique, et le pire, hein, je l'avais dit tout à l'heure, serait que la personne ne le dise pas, mais qu'elle soit choquée, vexée, blessée, etc. Et après, avec des conséquences à long terme qui peuvent être dramatiques, catastrophiques. Personnellement, j'utilise jamais ce genre de choses. Des moqueries sur la taille des seins, la couleur du téton, ce genre de choses. Ou si c'est avec un homme, la taille du pénis, hein, c'est un classique. Fondamentalement, je pense que c'est parce que, en moi-même, je pense que c'est trop blessant. Je n'utiliserai pas ce genre d'humiliation-là, parce que c'est trop directement blessant et c'est difficile de faire la part des choses. Donc à mon avis, cet exemple-là, c'est le pire peut-être, parce que c'est difficile de faire la part des choses quand on se moque de votre physique. Mais ce que je voulais souligner en tout cas, c'est que il y a des risques. Et même si on fait de l'humiliation, que ça se passe bien, et qu'on passe à autre chose soudain, il faut se méfier quoi. Se méfier de bien vérifier que la personne en face, elle va pas mal réagir à un certain type d'humiliation verbale. Jusqu'à présent donc, je parlais dans une relation, un couple ou une relation plus ponctuelle, peu importe. Donc là, la grosse difficulté, c'est vraiment, hein, toujours le même problème, je me répète, faire la différence entre ce qui se passe pendant qu'on fait du BDSM, du sexe, etc., et en dehors. C'est-à-dire de bien comprendre que quand on utilise ce genre de terme, quand c'est dans le contexte du BDSM, c'est pour le délire, c'est pour l'excitation, ça n'a rien de réel. Ce ne sont pas des vraies insultes, faut pas les prendre comme telles. C'est évident, mais c'est pas toujours si évident, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, vous avez un autre cas que je vais aborder brièvement. C'est le cas où vous rencontrez quelqu'un, notamment, qui débute le BDSM. Ou vous, vous débutez le BDSM et vous tombez dans le piège. Le problème est le suivant, c'est un classique que j'ai déjà expliqué, dénoncé dans le passé. C'est un problème super répandu dans le BDSM. Le souci, c'est qu'il y a plein d'idées reçues, de folklore, etc. dans le BDSM, et il y a un problème majeur qui est l'attitude qui consiste à dire, à penser que parce que d'autres personnes font telle ou telle pratique BDSM, alors nous aussi, dans une relation, hein, on doit faire pareil parce que le BDSM, ça inclut ce genre de choses. Évidemment, quand on s'y connaît, on sait que c'est faux. On peut faire ce que font les autres, hein, si on aime ça, mais si on n'aime pas, on n'est pas obligé. C'est évident. Mais n'empêche qu'il y a des personnes, elles ont du mal à le comprendre. Et surtout quand on débute, ça peut être un piège ça, parce qu'on se rend pas compte que oui, vous avez le droit de pas aimer ci ou ça, c'est pas grave, voyez. C'est vraiment super évident, hein. Peut-être vous avez trouvé que c'est à la limite de l'insultant de dire des choses comme ça, mais je vous assure qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, qui s'imaginent que, en partie parce qu'on leur a fourré des idées stupides dans la tête aussi, hein, qui s'imaginent que parce qu'il y a des personnes qui montrent ça en modèle, il faut faire pareil, sinon c'est pas du BDSM. Et ça, c'est le fameux « c'est comme ça dans le BDSM » ou le « entre guillemets vrai BDSM », qui sont des pièges absolument horribles pour les personnes qui débutent. Évidemment, quand on connaît la musique, on se fait pas avoir par ça, mais il y a beaucoup de personnes qui débutent, qui n'ont pas encore de recul, c'est normal, et qui tombent dans ces genres de pièges, ça se comprend, mais c'est un gros problème, évidemment. Et là, ça peut être très très grave, parce que vous pouvez avoir un des partenaires dans une relation, dans un couple, qui veut faire du BDSM, mais ça par exemple, ça lui déplaît, et comme on dit « Ah mais pour faire du BDSM, il faut absolument faire ça », bah la personne va le faire quand même. Et évidemment, ça, si la personne le prend mal, ça peut dégénérer, ça peut complètement bousiller une relation ou un début de relation. Bien entendu, ça dépend de la personne. J'ai expliqué dans mon cas, par exemple, ça me plaît pas vraiment ce genre de choses, mais ça me gêne pas outre mesure de les utiliser dans le contexte BDSM. Il y aura des personnes qui débutent, ce sera pareil, bien évidemment. Mais malheureusement, il y aura toujours des gens à qui ça plaît vraiment pas et que ça choque, ou que par exemple, d'utiliser ces mots-là, c'est vraiment, vraiment très très difficile, très mal vu, quoi. Et là, dans ces cas-là, ça peut être catastrophique. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé dans le cadre d'une relation, d'un couple par exemple. Tout à l'heure, j'avais bien dit, il y a un autre cas. C'est le cas où vous êtes non plus chez vous, entre guillemets, entre soi, mais qu'il y a des témoins, dans une soirée par exemple, ou que vous produisez des écrits, des vidéos, des podcasts, dans lesquels vous utilisez ce genre de choses. Donc là, la situation est très différente. Évidemment, quand on est dans son propre couple, dans sa relation, a priori, du moins, à part peut-être si on vient juste de se rencontrer, on a quand même une idée de ce que la personne en face a dans la tête, de son caractère, sa personnalité, hein. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de comprendre que la personne n'est pas sérieuse quand elle dit ça, et que c'est dans un contexte BDSM. Mais si vous avez affaire à quelqu'un que vous connaissez pas, un inconnu, une inconnue sur internet qui part dans des délires, qui utilise des termes comme ça super agressifs en apparence, vous savez pas si la personne elle est sérieuse ou pas. Et ça, c'est un problème qui est très très important et qui est récurrent dans tout ce qui est BDSM, et pas uniquement dans le contexte de l'humiliation verbale d'ailleurs. Pour énormément de choses, quand on parle de BDSM, il y a des personnes qui produisent notamment des écrits dans lesquels, par exemple, elles délirent, ce sont des fantasmes qui sont décrits, et il faut pas les prendre au pied de la lettre. L'ennui, c'est que vous, quand vous lisez l'article, l'écrit, le blog, vous savez pas trop si la personne elle est sérieuse ou pas. Alors, certaines personnes le disent, par exemple, moi, quand j'ai écrit un certain nombre d'articles, d'histoires, etc., je fais très attention à dire « là, c'est une histoire » ou bien « là, c'est un témoignage pour dire « je ne plaisante pas, là, c'est vrai », etc. Je précise le contexte. Mais il y a beaucoup de personnes qui le font pas, donc vous pouvez jamais être sûr à 100% de qu'est-ce que la personne en face a dans la tête, et donc vous pouvez pas être sûr que ce qu'elle dit, par exemple quand elle fait des remarques sexistes, ce genre de choses, est-ce que c'est le contexte BDSM, le délire BDSM et c'est pas à prendre au sérieux, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est super sérieux et qui veut vraiment dire ça et qui est hyper désagréable, etc. Si vous avez écouté mon épisode 52 sur les tabous du BDSM et les jeux de race, comme on dit, c'est exactement pareil, hein. Si vous lisez des écrits sur ça et que vous n'êtes pas prévenu, ça peut être super choquant, parce que vous avez des choses qui sont extrêmement racistes dedans, mais si vous savez que c'est dans un contexte BDSM, avec une personne qui a la volonté de les dire dans un contexte BDSM, ça change tout. Si c'est un des grands dragons du Ku Klux Klan qui est en train de dire ça, ça change beaucoup le sens. Parce que là, vous savez que c'est pas de la blague et que les personnes, elles veulent vraiment, vraiment dire des choses racistes. Du coup, vous voyez, tout ce qui est orienté vers l'extérieur, c'est un problème. Potentiellement, c'est un problème. Et pour moi, c'est réellement un souci. J'ai déjà été confronté, hein, faut que vous compreniez. Étant donné que je produis beaucoup de contenu pour mon site, pour le podcast, pour mon blog, j'ai écrit énormément de choses et j'ai enregistré pas mal de choses. Et malheureusement, j'ai constaté, je m'en suis déjà d'ailleurs plaint dans le passé, dans d'autres épisodes, j'ai constaté qu'il y a pas mal de gens qui sont prêts à interpréter les choses de travers et qui n'hésitent pas à totalement transformer ce qu'on dit, à vous mettre des paroles dans la bouche, etc. mais surtout qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire que vous vous dites quelque chose et on transforme totalement ce que vous avez dit pour, de façon très malsaine, hein, inverser les choses ou vous faire dire les choses d'une façon telle que il dit ça, donc ça veut dire qu'il est sexiste, raciste, tout ce que vous voulez. J'ai déjà été confronté, hein, faut vraiment que vous compreniez que c'est un problème, et de temps en temps, j'ai vraiment reçu des messages super bizarres de gens qui disent des choses totalement folles et décalées de la réalité, hein. Et ce, chose très importante, même quand j'avais précisé super clairement dans l'article ou dans l'épisode de podcast que je parlais dans tel ou tel contexte, etc., que j'étais super précis, vous avez quand même des gens qui soit ne lisent pas les avertissements ou les mises en contexte, soit qui s'en moquent, ce qui est un gros problème, mais je vais pas insister. Donc ce que je veux dire, c'est que même si vous prenez des précautions dans votre écriture, en disant bien « le texte qui suit est dans un contexte BDSM, donc quand vous verrez des insultes sexistes, des insultes racistes, c'est pas moi qui parle, c'est pas ma façon de penser, ce sont les personnages dans un contexte BDSM parce que ça a du sens dans ce contexte-là. » Ou si vous faites pareil avec des avertissements en début d'épisode. Hein. Même si vous faites ça, vous ne pouvez pas savoir si les personnes en face vont en tenir compte et vous risquez de vous voir attribuer les idées, donc racistes, sexistes et tout ce que vous voulez, hein, qui ne sont pourtant pas du tout vos idées réelles, qui sont celles par exemple de personnages, ou bien qui sont juste un délire BDSM ou un fantasme BDSM, ou des histoires personnelles mais dans un contexte BDSM, et on refuse de considérer que vous êtes dans le contexte BDSM et on vous les attribue, donc ça veut dire vous êtes accusé de racisme, sexisme et tout ça. Et le gros problème, vous l'aurez peut-être compris, c'est que on peut pas se défendre contre ça. Quand vous êtes face à des personnes qui font exprès d'interpréter de façon hypocrite ou de travers, etc., qui ensuite éventuellement propagent à d'autres que « ah mais lui ou elle a dit ceci, cela, oh là là, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur », qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez même peut-être pas que la personne en question qui vous diffame, parce que c'est de la diffamation, est en train de vous casser du sucre sur le dos avec d'autres personnes. Vous pouvez pas vous défendre. Alors évidemment, moi j'y suis confronté, hein. C'est pas dur à comprendre, mais ça peut arriver à toute personne qui produit quelque chose, du contenu, typiquement des écrits ou des podcasts, parce que vous aurez toujours ce risque, le risque qu'on vous comprenne pas ou intentionnellement qu'on déforme ce que vous voulez dire. Et je l'avais déjà expliqué dans pas mal d'autres épisodes, hein, il y aura toujours des personnes pour prendre ce que vous dites, ce que vous écrivez, au premier degré, sans réfléchir que c'est du BDSM, que ça peut être une description d'un fantasme, une histoire complètement déconnectée de la réalité, que vous avez jamais fait, hein, c'est pas un témoignage, et qui vont quand même le prendre au pied de la lettre en disant « Ah mais c'est un témoignage, c'est un monstre, ou une monstre ». Donc là, ça peut être un vrai problème, et franchement, quand on y pense, ça donne un peu à réfléchir. Hein. On peut se poser la question, quand on écrit, quand on fait des podcasts, est-ce que c'est pas un petit peu, ça dépend ce qu'on dit bien entendu, mais est-ce que ça risque pas d'être utilisé contre vous après? Franchement, c'est navrant d'en arriver à penser des choses comme ça, mais je suis obligé de constater, hein, après des années et des années de publications diverses, qu'il y a pas mal de gens qui sont de mauvaise foi, qui ont de mauvaises attitudes, et qui utilisent tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez contre vous. Alors bien sûr, ce sera particulièrement critique contre des personnes qui produisent beaucoup de contenu, comme moi, les personnes qui écrivent sur les forums des sites sociaux BDSM, les personnes qui écrivent beaucoup de blogs, d'idées personnelles, etc., sur les sites sociaux, sur des blogs et tout, hein. Parce que plus on écrit, bien entendu, plus le risque est élevé, c'est évident. Mais là, vous voyez les insultes dont je parlais tout à l'heure, là, de mettre dans des textes des salopes, putes, etc., ça peut très vite être mal interprété, et ça encore, c'est rien, le pire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand vous utilisez des choses qui sont racistes, ou des choses du type homophobe, etc. aussi, ce qui est assez utilisé aussi. Et là, le risque est quand même assez important, parce que trop de personnes ont du mal à distinguer les deux contextes. Le BDSM, que ce soit une histoire, une fantaisie ou la réalité dans un contexte BDSM, et hors du BDSM, où là, évidemment, si vous disiez la même chose, là, ce serait un problème. Évidemment, plus vous touchez un public qui est large, c'est-à-dire quand vous vous adressez à un cercle d'amis, évidemment, vous savez qui est en face, donc vous présumez probablement que vous avez une bonne évaluation des réactions qu'auront les personnes à qui vous dites toutes ces choses, à qui vous écrivez dans un blog, etc. Mais quand on est face à un public plus général, on peut pas savoir qui est en face. On peut pas savoir quelles sont leurs pensées, quelles seront leurs réactions. Et forcément, hein, dans le lot, il y aura pas mal de personnes qui n'ont pas l'esprit ouvert. Des personnes qui sont contre le BDSM ou qui pensent que les gens qui font du BDSM ce sont tous des malades mentaux, ce genre de choses. Et ça, c'est un gros problème. L'humiliation verbale, si on aime ça, ça peut être très sympa. Après, même si, comme moi par exemple, vous aimez pas spécialement ça, mais que vous l'utilisez comme un outil parce que c'est sympa, que la personne en face aime ça, c'est très sympa aussi. Mais quand même, il faut se méfier. Il faut vraiment, à mon avis, se méfier quand on le fait dans sa relation, d'être vraiment sûr quand même que la personne avec qui on le fait, que ce soit la personne qui donne ou qui reçoit, hein, les insultes, l'humiliation, toutes les choses que j'ai décrites dans la deuxième partie, faut vraiment, vraiment être sûr que la personne en face, elle est vraiment réceptive et qu'elle comprend bien la différence entre le moment où on est au lit et où on est dans un, ce que j'appelle, délire BDSM, et le reste. Conclusion, comme pour tout pour BDSM, l'humiliation verbale, ça peut être très sympa, on peut en faire sans problème, et franchement, je pense pas qu'il y ait de raison de s'en priver, si on aime ça, bien entendu, mais quand même, il faut faire attention, et c'est comme pour tout dans BDSM, faut vraiment se méfier du malentendu, faut confirmer que t'es vraiment ok quand on parle de ci, de ça, etc., pour éviter ce que je viens d'écrire, pour éviter le dérapage de parler de quelque chose qui était pas prévu et que la personne le prend mal, alors que tout le reste, ça passait. Comme pour tout dans le BDSM, faire un petit peu attention et puis communiquer le minimum au moins pour être sûr que des deux côtés on est sur la même longueur d'onde, tout simplement. Je vous apprends rien en disant des choses comme ça, mais malheureusement, ce genre de soucis, ça arrive parce que trop de personnes hésitent et communiquent pas assez ou n'osent pas dire que telle ou telle chose leur plaît pas. Et ça, c'est vraiment une grosse gaffe. Alors que si on est attentif et attentive et qu'on discute un minimum et qu'on se met d'accord, il devrait pas y avoir de problème en fait. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait, faut juste garder l'esprit ouvert et penser à demander aussi aux deux personnes concernées est-ce que ça va quand on a parlé de ci ou de ça pour être bien sûr que ça s'est bien passé. Ça évitera de mauvaises surprises dans quelques semaines ou quelques mois. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info dans la rubrique Contact. Vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous pouvez aussi y trouver mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.